Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message aujourd'hui, le message numéro 12 et fin de notre série sur la guérison et la bonne santé divine. Et je l'ai intitulé « Une alliance meilleure ». Nous allons fixer nos regards sur l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons une alliance. Et Hébreux 8, 6 nous dit la chose suivante. « Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Une alliance meilleure, et même la Bible dit ici, plus excellente. Plus excellente. L'excellence n'est pas un état. L'excellence, c'est une attitude de vouloir aller toujours vers quelque chose de mieux. Et là, on met les deux mots ensemble, meilleur et plus excellente. Donc, ça nous pousse vers quelque chose, on pourrait dire, des summums jamais atteints jusqu'à présent. Et c'est là où est Jésus, tout en haut. Supérieur. Alliance meilleure, meilleure promesse, plus excellente. Donc, qu'est-ce qu'une alliance? Si vous demandez dans la rue les gens ce que c'est une alliance, ils penseront avant tout à la bague que les gens mariés portent. Mais au-delà du symbole, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça représente, l'alliance. Parce que le problème du symbole, c'est que à force d'avoir que des symboles, on fixe nos regards sur le symbole et on oublie la réalité. C'est ainsi que l'alliance n'est pas contenue dans la bague que nous portons. Mais l'alliance, elle se base sur quoi? Ça peut être intéressant aussi pour des gens qui pensent à se marier, de réfléchir à ça. L'alliance est basée sur les promesses, sur l'engagement de chacun, sur chaque partie qui s'engage par des promesses. Ça, c'est la base de l'alliance. Et de cette façon, on a vu aussi qu'il y a une alliance supérieure en Jésus qui nous est donnée et elle est basée sur des promesses. Donc, devant des témoins ou non, parce qu'il y a des alliances qui sont faites, par exemple, entre Dieu et un homme, ou alors entre deux personnes. Des fois, il y a un contrat, des fois, il n'y a pas de contrat. Des fois, il y a un serment. On peut dire que des promesses, ça s'apparente aussi à un serment. Mais voici un petit peu l'idée de l'alliance. Deux personnes se joignent parce que, quelque part, ils y trouvent un intérêt de chaque côté d'être mieux ensemble que séparés. Et c'est ce que Dieu a voulu faire avec l'humanité aussi. Dieu est un Dieu d'alliance. Répétez-le après moi. Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut qu'on comprenne ce principe de l'alliance. Parce que dès le début, Dieu a toujours voulu établir des alliances avec les hommes. Toujours. C'est comme un partenariat. On peut dire que tant qu'il n'y a pas d'alliance, Dieu ne peut pas venir brutalement. Une personne étrangère ne peut pas venir sonner à la porte, dire « Voilà, je viens inviter chez vous maintenant. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, quelqu'un avec qui vous avez fait alliance, vous avez dit, voilà, vous voulez vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours, ben, celui-là considère que c'est sa maison. Et donc, Dieu, de la même façon, veut agir dans et chez l'homme, mais il ne le fait que sur la base d'une alliance. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'alliances. On pourrait, toute la journée, il ne suffirait pas d'étudier toutes les alliances de la Bible. Mais on va voir juste quelques points pour nous introduire dans cette alliance plus excellente. On va commencer par la première alliance. Est-ce que vous connaissez la première alliance qui a eu lieu entre Dieu et un homme? Non. C'est Noé. La première alliance que la Bible nous décrit, c'est Noé. Donc dans Genèse 6, 18, Dieu dit « J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Et chapitre 9, verset 9, il dit « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Et au verset 11 de Genèse 9, il est dit « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et donc, vous avez une alliance, vous avez la façon dont l'alliance se réalise, et en général, vous avez le signe d'une alliance. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance, c'est au verset 12, que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres qui sont avec vous pour les générations à toujours. En général, tout le monde connaît ce signe, c'est le plus célèbre, c'est l'arc-en-ciel. J'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc c'est quand même spectaculaire ce que Dieu fait. Des fois, les gens pensent que Dieu agit caché, mais là, on a un signe que beaucoup de gens peuvent voir et tout le monde admire, et des fois, il est grandiose. L'arc, verset 15, « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Ainsi que quand des fois il y a des catastrophes naturelles, et que c'est bien triste, soit un raz-de-marée ou des inondations, des choses comme ça, et les gens disent, c'est un véritable déluge, vous pouvez dire non, ce n'est pas un déluge. On comprend ce qu'ils veulent dire, mais ce n'est pas un déluge, et ça ne peut pas être un déluge, parce que Dieu a dit, je ne ferai plus jamais de déluge. Il n'y aura plus jamais de déluge. Et si les gens sont inquiets par rapport à ça, il peut y avoir une inondation, mais il ne peut pas y avoir de déluge, sinon Dieu deviendrait menteur. D'une parole qu'il a dit, il faudrait qu'il l'annule et qu'il aille au contraire de ce qu'il a dit. La deuxième alliance dans la Bible, c'est celle d'Abraham. Avant qu'il soit Abraham, il était déjà Abraham et il avait une alliance avec Dieu. Dans Genèse 15, verset 18, il est dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité » depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Chapitre 17, verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Jusqu'à présent, vous voyez, il n'avait rien à faire. C'est juste des promesses, des paroles de Dieu. Après, quelle doit être la réponse, puisque par exemple pour un mariage, deux personnes qui s'engagent, ils font des promesses réciproquement et chacun s'engage et chacun reçoit. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Pour le moment, c'est que Dieu qui prend l'initiative. Il promet des choses. C'est quand même formidable ça. Il n'y a pas une espèce de règle d'égalité où il faut que nous apportions dans la balance autant que Dieu. On en serait incapable, vous êtes d'accord? Mais Dieu est infiniment plus grand. Il déverse sa bonté, il dit voilà, je t'ai choisi, je voudrais faire alliance avec toi, je voudrais faire du bien dans ta vie, je voudrais que tu multiplies, je voudrais que tout aille bien pour toi. Voilà son désir. Et des fois, notre part, elle est très très petite, c'est presque rien par rapport à tout ce que Dieu a fait. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et donc, quel est le signe de l'alliance d'Abraham? C'est la circoncision. C'est pas la loi de Moïse, c'est avec Abraham que ça a commencé. Verset 10, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Voilà le signe de l'alliance. Donc, on a vu une alliance avec Noé, avec un signe, l'arc-en-ciel. Ici, une alliance avec Abraham, avec un signe dans leur chair, la circoncision, où ils montraient par là qu'ils acceptaient le plan de Dieu. Ensuite, on ne va pas détailler, mais vous pourriez regarder dans Genèse 17-19 que l'alliance d'Abraham, elle s'étend à Isaac, elle va vers la postérité. Ensuite, en Exode 2-24, l'alliance d'Abraham se transmet à Jacob. Dieu entendit les gémissements du peuple d'Israël et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez des gémissements des fois? Il y a des choses qui ne vont pas comme vous voudriez? Les gémissements sont quelque chose que Dieu entend. C'est le gémir, c'est une manifestation d'une souffrance intérieure, de quelque chose qui fait mal. Ça peut être une forme de prière ou de supplication. Et Dieu, nous dit la Bible, entend ça. Et quand il entend ça, ça lui rappelle aussi le souvenir de l'alliance. Alors à ce moment-là, vous pouvez venir vers lui en disant, nous avons une alliance avec toi. Tu peux intervenir dans ma situation. C'est ça que ça veut dire. Il y avait beaucoup de peuples qui étaient en esclavage à ce temps-là. Et les Égyptiens étaient le peuple numéro un des dominateurs qui étaient les conquérants de l'époque. Il n'y avait pas que les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Mais ici, les Hébreux ont une situation différente parce qu'ils ont une alliance qui a été transmise de génération en génération. Et cette alliance a fait que Dieu a envoyé le libérateur qui est Moïse. Donc l'alliance d'Abraham, qu'il a transmis à Isaac, qu'il a transmis à Jacob, maintenant se transmet à tout le peuple d'Israël. Ensuite, il y a beaucoup d'autres alliances. Je voudrais juste qu'on voit encore quelques éléments de l'alliance de Moïse. Dieu a fait une alliance avec Moïse. On peut dire que chaque fois que Dieu se révèle à un homme, il fait une alliance avec lui. Donc certaines alliances sont particulièrement importantes parce que il y a des milliers, des millions de personnes qui ont pu rentrer dans l'alliance à cause de cette personne. Et des fois, c'est juste une alliance individuelle. Mais ici, pour Moïse, n'oubliez pas, c'est aussi un type de Christ. Donc, il y a une alliance qui a été établie. Exode 24, verset 7. « Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Verset 8. « Moïse prit le sang. » Il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » C'est intéressant de voir que la Bible, dans le livre des Hébreux, appelle l'alliance de Moïse la première alliance. Bien qu'on a vu ici qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu d'autres alliances avant celle de Moïse. Mais il dit « Une des alliances majeures, c'est celle qui a été faite par le sang. » du temps de Moïse. Et donc, dans le même sens, il y a une nouvelle alliance par le sang de Jésus maintenant. Et quel est le signe de l'alliance de Moïse? Non? Le sang a été donné pour, on peut dire, sceller l'alliance, mais il y a un autre signe pour l'alliance. L'alliance de Moïse était manifestée par le sabbat. Le sabbat qui est inclus dans les 10 commandements, voilà, tu prendras un jour à part et tu montreras. Ça, c'était un signe puissant. Je le replace dans le contexte, un contexte d'esclavage. Hein, tout à coup, un jour par semaine, les esclaves n'ont plus besoin de faire leur travail. Ça, c'est quand même radical comme progrès social et comme impact visuel de dire « ça, c'est vraiment un peuple qui est différent de tous les autres, comment ça se fait ?» Ben oui, c'est leur Dieu qui a imposé cette loi. Et c'était un signe. Puisque les autres signes existaient déjà, mais ça, c'était le signe spécifique de l'alliance de Moïse. Seulement, bon, les signes, des fois, comme j'ai dit, les choses peuvent après être perverties. On garde juste certains aspects. C'est ainsi que Jésus a dû rétablir en disant « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Vous êtes en train de tout pervertir, ce qui était une libération devient maintenant un esclavage. C'est pour ça qu'il faut faire attention, y compris pour d'autres choses, on va voir. Donc, Moïse a été l'instrument entre les mains de Dieu pour établir cette nouvelle alliance. On peut dire la base de la nouvelle alliance de Moïse, c'était dans les 10 commandements. C'était une loi qui après, on l'a vu, devient écrasante, mais au début c'était une loi qui devait libérer le peuple. Il devait dire, voilà, vous êtes un peuple différent. Vous n'allez pas vous laisser prendre par les séductions de toutes les idoles et divinités. Vous aurez un seul Dieu. Et puis, il y avait un certain nombre dans les 10 commandements, un certain nombre de choses qui réglementaient le comportement, les relations entre les gens. C'était une loi qui pouvait réellement libérer. Sauf que ça ne marche pas à cause du cœur de l'homme. Et donc il nous est dit que Moïse était avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc il y a beaucoup d'autres alliances encore, en particulier, peut-être vous vous rappelez aussi de l'alliance de David. Dieu a fait une alliance avec David, tellement importante qu'il avait promis à David, jamais il ne manquera de descendant de David sur le trône d'Israël. Et donc, même quand les rois n'étaient pas comme il fallait, qu'ils ne marchaient pas avec Dieu, Dieu s'arrangeait pour qu'il y ait toujours à nouveau un descendant à cause de cette alliance qu'il avait faite. C'est tellement important. Il y a beaucoup d'alliances. Par exemple, il nous est dit qu'il y avait une alliance particulière avec les Lévites. Les Lévites devaient servir Dieu. Et il nous est dit, dans Lévitique 2,13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. » Parce que c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Encore un signe de l'alliance. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. D'où aussi, après, toute la richesse des paroles de Jésus. Quand il dit « Vous êtes le sel de la terre », etc. Ça veut dire qu'il y a là un dessein de Dieu qui souvent nous dépasse. Voilà un petit peu pour juste brosser les alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut qu'on le comprenne, ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des alliances que les hommes ont pu faire les uns avec les autres, mais on en voit dans toutes les cultures. On se souvient peut-être de films où il y a des gens qui sont devenus frères de sang quand ils se font une entaille et puis ils mettent poignée contre poignée ou des choses comme ça. Mais les hommes ont aussi fait des alliances entre eux. Et des fois, quand il y avait une alliance, eh bien, quand les ennemis venaient contre eux, ceux qui étaient alliés avec eux devaient tout de suite venir à leur secours, venir les délivrer. Et on voit que les gens qui observaient Abraham, Isaac et Jacob, quand ils voyaient la bénédiction de Dieu sur leur vie, disaient « On veut faire alliance avec vous, on veut être bien avec vous, parce qu'on voit que Dieu vous bénit et que ça se passe bien. » Et une des plus belles alliances humaines qu'on puisse imaginer, c'était l'amitié de Jonathan et de David. Le roi Saül avait son fils aîné Jonathan et il nous a dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est dans 1 Samuel 18:3. Et ensuite on nous décrit de quelle façon ils ont fait alliance. Jonathan a enlevé son habit, il l'a donné à David. Il a enlevé ses armes, il les a données à David. Ça veut dire ce que j'ai est à toi. Mes ennemis sont tes ennemis. Et c'est ça l'alliance. Et ça nous introduit un petit peu dans ce que Dieu veut nous dire quand il dit il a une alliance avec nous. Quand par exemple l'Église a été persécutée dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que Paul, Paul qui était encore Saul de Tarse, il ravageait l'Église, il respirait la violence et le meurtre, et c'était un des principaux persécuteurs. Et il nous a dit que quand il persécutait l'Église, Jésus lui est apparu. Il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu fais à ces gens-là » Il a dit « Qu'est-ce que tu me fais à moi ?» Dieu le prend très personnellement. Il dit « J'ai une alliance avec ces gens. Quelqu'un vous touche ?» Ça veut dire qu'il s'attaque directement à moi. Si vous vivez ça au niveau du couple, au niveau de la famille, quelqu'un qui attaque quelqu'un de votre famille, vous vous sentez vous-même agressé. Il n'y a qu'à le voir, je crois que c'est très vif des fois chez les parents. Vous avez déjà vu des parents dont on critique un des enfants, des parents normaux tout de suite réagissent parce qu'ils n'acceptent pas ça. C'est une bonne chose d'une certaine façon. Ça montre qu'il y a un attachement et qu'on prend soin de ceux avec qui on a une alliance. Il y a des avertissements contre certaines alliances aussi, parce qu'il faut réaliser combien ça peut nous envelopper. Exode 23, 32, « Tu ne feras pas d'alliance avec eux, les peuples de Canaan, ni avec leur Dieu. » Exode 34, 12, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. » Il y a des alliances qui sont des pièges. Et alors, après, on est lié. Dans le Nouveau Testament, Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous alliez avec des personnes incroyantes, vous allez en subir des effets. Nous devons donc veiller à, effectivement, développer des relations avec les gens pour leur témoigner de l'amour de Dieu, mais pas au point d'être liés par tout ce qu'ils font, leur comportement, et pour en être influencés. Il y a une différence entre développer tes relations et avoir une amitié profonde, on partage tout. Parce que il y a des personnes qui pourront alors à ce moment-là avoir de mauvaises influences. Et nous ne voulons pas être mal influencés, mais nous voulons avoir, être des personnes qui influençons de la bonne façon. N'est-ce pas vrai? Donc, pour le mariage indique que c'était aussi une alliance. Et moi je dis, la bague en est le symbole, mais ce n'est pas le signe. L'alliance du mariage a aussi un signe. Vous croyez que c'est la bague qui est le signe de l'alliance du mariage? Moi, je vois tout simplement que le signe de l'alliance du mariage, c'est l'amour. C'est ça le signe. Et là, on arrive pas à de la symbolique. Comme des fois, hélas, on voit des choses où des hommes mariés enlèvent leurs bagues quand ils sont en voyage pour faire semblant de qu'ils soient libres. Ça, ça n'a rien à voir. Donc la bague peut être un symbole, mais le vrai signe du mariage, c'est l'amour. On peut dire que sans l'amour, l'alliance est brisée. C'est... Toutes les promesses qui ont été faites le jour du mariage, elles ont été brisées au fil des ans. Je pense qu'il y a des mariages qui, même si les deux personnes sont encore ensemble, l'alliance est brisée. Elle a été brisée des milliers de fois. Parce que si on ne pratique pas et ne vit pas l'amour au quotidien, le signe de l'alliance, il n'est plus là. On s'est engagé à s'aimer, et donc ça veut dire qu'on va y travailler au quotidien. De vivre le ciel sur la terre, de permettre à l'amour de dominer sur d'autres choses. Bien sûr, ça pose des problèmes avec ceux qui ne savent même pas ce qu'est l'amour. Ils confondent amour, coup de foudre, passion, sentiment, on mélange tout. Et si les sentiments ont disparu, on croit que l'amour a disparu. Mais non, on peut toujours développer l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on peut y travailler. C'est un ensemble de choses. Donc, avec tout ce qu'on a vu sur le Dieu de l'Alliance, nous pouvons dire dans notre sujet sur la guérison que Dieu n'a pas seulement pourvu à la guérison dans l'Ancien Testament, avec tout ce que nous pouvons voir des alliances, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Même Dieu parle d'une ancienne alliance, parce qu'un jour j'ai rencontré un juif, Et je ne me suis pas aperçu, mais j'ai parlé de l'Ancien Testament. Il dit, c'est vous qui dites qu'il y a un Ancien Testament. Pour eux, c'est le Testament tout court. Mais même dans la parole de Dieu, à un moment, Dieu dit, je me souviendrai en leur faveur de l'Ancienne Alliance. C'est une alliance qui est ancienne, c'est Dieu lui-même qui le dit. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore la Nouvelle. Mais l'Alliance, elle était ancienne. Par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Et quelle est une des premières choses que Dieu a déclaré au peuple quand ils sont sortis d'Égypte, dans Exode 15, comment on peut définir cette alliance? Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est dans Exode 15 où Dieu se présente ainsi. Il dit, je ne te ferai subir aucune de toutes ces maladies que les Égyptiens connaissaient. Et pourtant, moi, je crois que les Égyptiens, à ce moment-là, étaient les médecins les plus avancés et les plus expérimentés du monde antique. Et un peuple de nomades comme les Hébreux, c'était rien du tout par rapport à la culture médicale des Égyptiens. Ils avaient développé des choses au niveau chimique, au niveau conservation des corps, au niveau des momies et de tout le reste, qui sont absolument étonnantes. Et pourtant, ces Égyptiens avaient toutes sortes de maladies, mais Dieu dit, de toutes ces maladies, tu ne seras pas atteint, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a une alliance de guérison. Donc, comment on peut définir cette alliance? David disait que l'alliance avec Dieu, c'est une alliance en tout point bien réglée. Comme un contrat d'assurance où il y aurait toutes les petites choses qui sont prévues, toutes les clauses, les choses qui pourraient peut-être vous surprendre, mais c'est prévu dans le contrat. Tout y est. Alors, on voit qu'il y avait toutes sortes de guérisons dans l'Ancien Testament, des cas de stérilité. Beaucoup de gens étaient atteints de stérilité, actuellement encore. Abraham avait ce problème dans sa famille. Isaac, tout ce roi qui, avec toute sa maison, Abimélec, je crois qu'il s'appelait. Et donc, il est dit que Dieu intervenait dans toutes ces situations déjà à l'époque. On voit le ministère d'Élisée, la résurrection du garçon qui était malade. Il avait tout à coup, il avait mal à la tête et puis il en est mort. Et donc, dans toutes ces situations, Dieu s'est révélé comme le Dieu de l'Alliance. Il est l'Éternel qui guérit. Comment est-ce qu'il guérissait dans l'Ancienne Alliance? Il guérissait, la Bible nous dit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. » Il envoie sa parole, il envoie des paroles de guérison. Et il guérissait par la foi aussi. Dans le livre des Nombres, quand le peuple a murmuré, critiqué, les serpents brûlants sont venus, ont mordu le peuple, beaucoup sont morts. Et donc Moïse a fait le serpent d'airain, il l'a mis sur une perche. Et ceux qui croyaient, qui regardaient, étaient guéris. Donc on voit qu'il y avait déjà la parole et il y avait la foi. Et Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean, il a dit, c'est une préfiguration de la croix. Il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même façon, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. De la même façon, avec comme conséquence le salut pour ceux qui regardent. Et en l'occurrence, le salut pour le peuple d'Israël, c'était aussi d'être guéri de ces morsures empoisonnées. Donc nous avons maintenant une meilleure alliance. Mais en quoi la nouvelle alliance est meilleure? Alors, on l'a vu au début. On l'a vu parce qu'il y a des meilleures promesses. On peut dire, même si l'ancienne alliance était déjà formidable par rapport à ce que les gens pouvaient vivre dans le passé, l'alliance nouvelle par le sang de Jésus, elle est meilleure. Il y a des meilleures promesses, elle est plus excellente. Nous nous trouvons à présent dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, chapitre 8, versets 6 à 13. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ça a été écrit dans les années 70 à peu près, donc à ce moment de la transition entre ancienne et nouvelle alliance. Jésus était déjà venu, mais pour beaucoup, eh bien, il s'accrochait encore à l'ancienne alliance. Mais il n'y a pas besoin de s'accrocher à l'ancienne alliance parce que la nouvelle est plus excellente et qu'elle contient largement non seulement tout ce qu'on a besoin, mais il nous est dit que l'autre, elle a été avec des défauts. Il fallait la remplacer par une seconde. C'était un début. Donc comment Dieu agit-il aujourd'hui? On a vu qu'autrefois, il envoyait sa parole et les guérit. Il fallait mettre sa foi en Dieu. Ben, ça n'a pas changé. Il a encore envoyé sa parole. C'est Jésus. Et il faut encore mettre notre foi en lui, et on voit la puissance du Saint-Esprit qui est là avec sa manifestation, l'onction. Donc une meilleure chose doit inclure les avantages de la première. La guérison dans l'Église de Jésus-Christ fait partie de la nouvelle alliance par le sang. C'est pas une chose qui est en option pour ceux qui voudraient, ça fait partie de l'alliance. 1 Pierre 2,24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est comme, ça coule comme une conséquence, je dirais presque naturelle, mais elle est surnaturelle la conséquence. Donc voilà une alliance établie, une alliance meilleure, non seulement de pardon, mais aussi de guérison, parce que nous avons fait une alliance avec quelqu'un qui est puissant pour agir dans chaque domaine, dans chaque circonstance. Donc nous avons besoin, ça c'est une autre partie, une fois que nous sommes dans une alliance avec Dieu, nous avons vu que le peuple n'a pas bénéficié de cette alliance parce que Dieu lui-même le dit, ils n'ont pas persévéré dans cette alliance. Nous avons besoin de persévérer dans l'alliance. Vous réalisez ça ? La persévérance, demeurer dans l'alliance. C'est pour ça on pourrait poser cette question, comment conserver la guérison divine ? Comment conserver ces bienfaits de Dieu ? Je crois que nous avons vraiment quelque chose à faire. Être malade et avoir été guéri, c'est déjà une bonne chose. Mais rester dans cette condition d'alliance, c'est aussi important. Je crois que d'une façon directe ou indirecte, le diable et les démons sont toujours plus ou moins actifs quand il y a maladie. Pourquoi je le sais ? Parce que la Bible nous dit que pendant le millénium, quand Satan sera lié, il n'y aura pas de malade sur la terre. Les gens seront en bonne santé. Et je me rappelle d'une petite histoire avec l'évangéliste Smith Wigglesworth qui a été utilisé par Dieu pour des miracles, des résurrections et plein de choses. Au début de son ministère, il avait une appendicite. Or, c'était de période où, peut-être ici dans notre pays actuellement, quelqu'un dit c'est une intervention bénigne, une appendicite, on fait une petite incision et puis voilà. Mais à l'époque, souvent les gens en mouraient, il y avait une infection et puis on en mourait. Et donc il était là en train de souffrir de cet appendicite et il y a un jeune homme qui vient et qui saute sur le lit où il était, il donne un coup de poing là où se situe l'appendice et qui chasse le démon au nom de Jésus. Et lui, pendant ce temps, il réfléchit, il dit, mais je suis un prédicateur, je suis un serviteur de Dieu, il n'y a pas de démon en moi que je sache. Mais il a été instantanément guéri et il n'a plus ressenti aucune douleur et c'est parti. Donc sa théologie a été un petit peu ébranlée, mais le résultat était là, c'est que il y a eu une intervention de Dieu. Donc, bien sûr, certains vont, leur fait un peu travailler au niveau de la tête en disant, mais si c'est le résultat d'une action démoniaque, est-ce qu'il agit directement, où il se situe, tout ça. Je ne peux pas vous donner toutes ces réponses. Je peux seulement dire que souvent le diable est à l'œuvre et nous avons besoin de lui montrer le chemin, de lui montrer où il peut être et où il ne peut pas être. Et c'est pourquoi que Jésus a commencé dans Marc 16 à dire, premier miracle de ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront des démons. Il y a besoin de prendre position contre les puissances des ténèbres dans notre vie. Et dans certaines situations, nous avons vu dans les derniers messages sur la guérison, que Jésus, par exemple, d'abord, il a chassé l'esprit d'infirmité de la femme qui était courbée. Ensuite seulement, il lui a imposé les mains et elle s'est redressée. D'abord, il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et la Bible nous dit à ce moment-là, c'est un esprit qui la maintenait esclave et pliée en deux. Donc, il y a certaines situations où il nous faut d'abord comprendre qu'il y a un combat. Il y a un combat au niveau de notre être tout entier, au niveau de notre corps. Dieu voudrait que nous servions avec ce corps à sa gloire. Le diable voudrait s'en servir pour amener le mal sur la terre. À nous de choisir. Et donc il nous a dit, si nous avons fait ça, si la puissance de Dieu est venue, si nous avons été délivrés d'une maladie, si nous sommes nouveau en bonne santé, la Bible nous dit ce qu'il nous faut faire. Matthieu 12, 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, je dis là, qu'il y a eu délivrance ou non, vous comprenez ? Mais quand le mal est parti, quelle que soit la forme, qu'est-ce qu'il fait ? Il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison et s'y établissent, et la dernière condition de ces hommes est pire que la première. Donc il y a des situations, il nous faut réaliser, que c'est pas parce qu'on a mené une bataille et qu'on a gagné cette victoire que la guerre est finie et que maintenant ça va bien. Donc, le fait d'avoir balayé ne suffit pas. Vous le savez, on a beau balayer, aspirer la poussière, il y a toujours la saleté qui revient. Il y a toujours nouveau la poussière qui revient. Bon, alors, on va pas dire non plus, c'est pas la peine de nettoyer, puisque ça sera à nouveau sale. Mais d'un autre côté, on le sait à l'avance, c'est pas parce que ça a été nettoyé une fois que c'est terminé pour toujours. Ce monde, il est comme ça. Et le monde spirituel, vous savez, les choses qui sont dans le naturel, c'est toujours un peu le reflet de ce qu'il y a spirituellement. Le monde spirituel, c'est la même chose. C'est parce que vous avez balayé une fois que maintenant c'est fini et vous n'aurez plus de soucis. Il faut donc que notre maison soit remplie. Il ne faut pas seulement qu'elle soit propre, il ne faut pas seulement qu'elle soit balayée, même pas, il nous est dit, ornée. Ornée, c'est décorée. Hein, certains chrétiens, ils décorent leur vie chrétienne. Il y a peut-être une façade, une apparence. Tout a l'air très bien. Mais si à l'intérieur c'est vide, alors il y a de nouveau quelque chose qui voudra remplir. Notre maison doit être remplie, remplie de Dieu. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une lubie non plus. Ce n'est pas quelque chose juste pour les pentecôtistes. Cette sorte de chrétien, c'est leur dada, ils parlent du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas une lubie de certains. C'est le plan de Dieu, que la maison ne soit pas seulement nettoyée, mais qu'elle soit aussi remplie. Remplie de l'Esprit de Dieu, c'est une exhortation pour les chrétiens d'Éphèse, mais je pense pour les chrétiens de tout temps et de partout. Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous croyez que la maladie peut venir facilement sur une personne comme ça, qui est dans cet état, tout le temps rempli de l'Esprit de Dieu, chantant les louanges de Dieu, étant inspiré par des psaumes de l'Esprit, et tout le temps dans un état de satisfaction, parce qu'elle sait rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour elle. Ça donne un bénéfice, un avantage énorme par rapport à ceux qui sont passifs, ronchons, qui trouvent à rouspéter et qui sont paresseux spirituellement. Être rempli de l'Esprit, rempli de la parole, ça va ensemble. Moi, je ne parle pas de la lettre qui tue, mais des paroles de Jésus qui sont esprit et vie. C'est ça les paroles de Dieu. Les manger, ça ne veut pas dire bourrer notre tête de connaissances intellectuelles, mais se laisser remplir de la parole qui est esprit et vie. Parce que quand vous remplissez de la parole, vous savez qu'une éponge, quand vous appuyez dessus, il va en ressortir ce que vous avez mis dedans. Quand il y a des pressions dans la vie, si vous avez mis la parole en vous, au moment où la pression arrive, c'est la parole qui ressort. Et c'est cette parole qui vous amènera à faire comme Jésus. C'est-à-dire, il est écrit, et d'arriver à surmonter certaines situations. Alors il a écrit ça aux Éphésiens, mais il a écrit aussi aux Galates, chapitre 5. Marchez selon l'Esprit. Et je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je l'ai déjà souvent dit, mais il faut qu'on se le répète encore. La plupart des chrétiens essayent de ne pas accomplir les désirs de la chair et ils pensent que l'Esprit vient comme une récompense de la part de Dieu s'ils ont été très saints, entre guillemets. C'est pas comme ça que ça se passe. La Bible me dit exactement le contraire. Marchez selon l'Esprit, attachez-vous aux choses d'en haut, et les choses de la chair, les choses qui sont, on peut dire d'une certaine façon, naturelles, vont diminuer d'importance. Il nous est dit qu'il y a un conflit. Ceux de l'Esprit, ceux de la chair, ils sont opposés. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. On nous parle après des œuvres de la chair, de tout ce que ça agit et produit en nous. Il nous dit, ceux qui commettent telle chose n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire, ils n'iront pas au ciel. Ça veut dire, ils ne pourront rien expérimenter du royaume de Dieu ici. Le royaume de Dieu ici, c'est quand Dieu exerce son autorité. Donc, vous avez un appel de Dieu, être rempli de l'Esprit constamment. Pas seulement une certaine dénomination, pas seulement le jour de Pentecôte, mais constamment, tous les jours. L'Église aussi, les églises locales et l'Église dans son ensemble, elle a le devoir et le privilège d'être remplie de l'Esprit. Donc faites en sorte que votre Église soit remplie de l'Esprit. Apportez votre part. Ayez cette aspiration. Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. C'est par l'Esprit de Dieu que ça se fait. 2 Corinthiens 3, 17, on l'a vu déjà, il y a eu plusieurs choses dans ce sens, dans les chants aussi qui ont été amenés pour la louange de ce culte. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Aspirons, attendons-nous à vivre une atmosphère céleste dans nos cultes. Qu'il y ait cette présence tangible de Dieu. L'Église remplie, chacun de nous remplit, et apportant notre part, transformée à l'image de Dieu. Dans nos cultes ou réunions, où chaque fois que vous êtes dans une situation de deux ou trois rassemblés en mon nom et je suis au milieu d'eux, ça se manifeste déjà, une atmosphère de gloire. Vous savez, des fois, ça a besoin d'être très compliqué, hein. Deux personnes qui chacun ont ce même désir de voir Dieu agir dans leur vie, quand ils se rencontrent, ils parlent de choses positives, des choses qui les élèvent, des choses qui les attirent toujours plus vers Dieu. Donc apprenons à conserver la guérison divine. Apprenons à garder en nous cette bonne santé. C'est par l'esprit que se communique la vie à notre corps. C'est l'esprit, le souffle de Dieu qui a donné vie à toute chose. Donc la dernière partie, je dirais, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons, c'est vrai, nous n'avons pas encore le corps incorruptible. Ça, on l'a remarqué. Nous avons des limites. Nous avons une promesse d'un corps incorruptible. Nous avons une promesse d'un corps transformé dans un instant. Mais nous attendons soit la résurrection, soit la transformation. Et nous avons déjà, on peut dire, un acompte. Ça, c'est décrit dans Romains 8. On va prendre encore Romains 8. Romains 8, c'est la libération par l'Esprit. Si vous identifiez dans votre vie à Romains 7, ça veut dire que vous avez des gros ennuis. Vous êtes constamment sous la condamnation. Vous essayez de faire ce que vous n'arrivez pas, vous aimeriez vivre une vie de chrétien, vous n'arrivez pas. Et donc, il faut passer de Romains 7 à Romains 8, absolument. Et là, ça commence par « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». En Jésus-Christ, vous obtenez une place qui vous libère. Et qu'est-ce qui se passe en Jésus-Christ? Et il nous est dit au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il rendra la vie à vos corps mortels. Recevoir le corps incorruptible, ce n'est pas ce qui est décrit ici dans ce verset. Comprenez ? Le corps mortel, quand il devient incorruptible, c'est une transformation par le Saint-Esprit qui change sa nature. Ce corps que vous voyez maintenant et que vous êtes tous assis dans votre corps, il n'a rien de comparable avec le corps incorruptible que vous allez recevoir. Mais maintenant, il nous est dit que nous avons un corps mortel, mais que Dieu a un projet. Le projet, c'est d'agir par son esprit, y compris au niveau de votre corps. C'est une bonne nouvelle, ça. Il ne s'intéresse pas juste à votre âme ou à votre esprit, mais à vous tout entier, pour que vous puissiez glorifier tout entier, le servir, esprit, âme et corps, avec toutes vos capacités. Si votre esprit est en communion avec Dieu, que votre corps est en bonne santé, mais que vous êtes malade mental, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si votre esprit est en communion avec Dieu, votre tête va très bien, mais que votre corps est paralysé, vous êtes limité dans votre service pour Dieu. Ainsi, vous voyez que quand vous n'êtes pas entier, quand Jésus disait « ta foi t'a sauvé, va en paix », en général, la traduction telle qu'on le voit dans l'hébreu, c'est « reçois le shalom, va en paix, sois tout entière, rétabli, restauré ». C'est ça que ça veut dire littéralement. Donc nous avons des promesses. Nous avons des promesses que la vie se communique à notre esprit par le Saint-Esprit et enfin, on peut dire que ça irradie dans tout notre corps. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Je comprends que le diable ne veuille pas qu'on annonce cette bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre de « tenons bon jusqu'à la fin et plus tard, ça sera mieux ». Et à ce moment-là, le psaume, il y a des promesses, par exemple, pour une vieillesse heureuse, le psaume 103. On avait déjà cité, parce que c'est celui qui parle, qui est celui qui guérit, qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies, mais il parle aussi d'autres choses. Au verset 4 et 5, il délivre ta vie de la fosse, il te couronne de bonté et de miséricorde, il rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Une cure de jouvence de la part de notre Dieu. Et si on prend les psaumes 90, ça c'est le plus connu. Beaucoup de gens citent le psaume 90 et vous devez ce matin choisir dans quel psaume vous voulez habiter. Si c'est le 90, alors celui-là, je vous le déconseille, parce que c'est le psaume qui parle des rebelles qui atteindront 70 ou 80 ans maximum, d'après la Bible. Il dit, voilà, ça c'est pour la durée de vie, 70 ans pour certains, les plus robustes, 80. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, et avant, c'était, il est dit que c'est ceux qui sont rebellés contre Dieu. Par contre, le psaume 91, psaume plein de promesses, dit, verset 15, « Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Là, Dieu nous promet d'être rassasié de longs jours. Quand vous êtes satisfait, dites maintenant j'ai tout fait, j'ai tout accompli ce que Dieu m'a donné de faire. Jésus était rassasié de jours à 33 ans environ. Il avait tout accompli, tout fini, il n'avait pas de raison de prolonger. Tout, sa vie était terminée, complète. Départ, on ne pourrait pas dire, oh, le pauvre, un jeune homme fauché dans la force de l'âge, et il est parti trop tôt. Non, pour lui, c'était parfait. Et pour nous, ça dépend ce qu'on veut faire de notre vie. Alors voilà pour le psaume 91, si vous voulez habiter dans le psaume 91. Ou alors vous pouvez être dans le 92 aussi, verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Parce qu'il y a un objectif, pas juste parce que la vieillesse sera plus heureuse, mais pour faire connaître que l'Éternel est juste. Vous voyez, il y a une vraie mission pour nous. Donc il y a des promesses de prospérité, de promesses de bénédiction, des promesses de longévité. À nous de nous saisir de ces choses. Et quand je dis « il vaut mieux prévenir que guérir », ça veut dire que ça se prépare tôt. Pas, quand on est très très âgé, tout à coup on veut rajeunir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire, mais ce sera certainement autrement pour nous de recevoir ça. Alors, il y a des choses qui sont aussi dans la Bible, Ecclésiaste 12, qui nous parle de la diminution de l'être physique, etc. Mais rappelez-vous que Ecclésiaste, c'est un philosophe qui raisonnait sur ce qu'il voyait, sur le naturel de la vie des hommes. Il n'est pas dit, voilà la volonté parfaite de Dieu, Ecclésiaste 12, qui est que toutes vos fonctions naturelles diminuent et se dégradent. Ce n'est pas ça qui est dit. Bien sûr, c'est dans la Bible, mais il faut voir dans quel contexte. Donc nous avons, au contraire, un Dieu qui veut nous appeler à avoir une vision d'avenir. Les vieilles personnes, des fois, n'ont pas de vision d'avenir, regardent que vers le passé. La Bible nous dit dans Habacuc, écris la vision, la prophétie, écris ce que tu veux faire pour Dieu. Il n'est pas dit écris tes mémoires, il dit écris ta vision. Nous sommes des personnes qui avons une vision. Dieu met devant nous la mort et la vie. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est dans Deutéronome 30. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie. C'est un choix de vie que nous pouvons faire. Dernier passage, c'est dans Galates 3. Paul leur dit, Galates dépourvus de sens. Une bonne introduction. Il dit, voilà ce que je veux apprendre de vous. Comment vous avez reçu l'Esprit? Comment vous avez vu des miracles se produire? Il nous a dit, par la prédication de la foi. On commence par l'Esprit, mais on ne veut pas finir par la chair. Voilà ce que nous devons décider. Alors, on va faire une déclaration ensemble. Je vous invite à vous lever. On va terminer. Une déclaration selon Hébreux 6, 9. Ceux qui ont la Bible devant eux, vous le faites. Vous allez manifester publiquement que vous voulez faire ce choix de vie. J'ai dit Hébreux 6, hein? Quoique nous parlions ainsi, moi j'ai parlé, voilà ce que nous allons dire. J'attends pour ce qui vous concerne. J'attends pour ce qui vous concerne. Des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Amen. Et ça, vous, ce genre de choses, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Dites, j'attends pour ce qui me concerne. Personnalisez-le. Voilà ce que j'attends. Vous pouvez parler à Dieu. Vous pouvez dire, j'attends des choses meilleures, favorables au salut. Seigneur, voilà ce que je désire. Vous lui parlez, vous dites, Seigneur, je sais, tu n'es pas un Dieu qui est injuste. Tu sais le travail, l'amour que j'ai montré pour ton nom. Il ne s'agit pas de se vanter, mais il le sait de toute façon. Et alors, à ce moment-là, il se rappellera de son alliance. Et vous dites, je désire, c'est mon désir, mon vif désir, de conserver ce zèle, d'avoir cette pleine espérance. On ne peut pas se relâcher maintenant. On n'a pas fini encore. C'est le moment d'avoir un second souffle si vous en avez besoin. Et la marche par la foi et la vie dans l'esprit n'est pas quelque chose de pénible. C'est quelque chose de qui nous renouvelle, qui nous rafraîchit. C'est la marche dans la chair qui nous fatigue. Nous devons faire les bonnes décisions. Alors nous ne voulons pas nous relâcher. Et on veut imiter ceux qui par la foi, la persévérance, héritent des promesses. Si vous voyez quelqu'un qui hérite d'une promesse ou quelque chose va bien dans sa vie, vous réjouissez, dites, oui ça marche, et je suis content pour lui. Et maintenant c'est mon tour. Dites pas, oh non, j'avais plus mérité que lui, maintenant c'est lui qui l'a. Non. Quand vous réjouissez des bénédictions de quelqu'un d'autre, vous devenez candidat pour la bénédiction suivante. Si vous murmurez et que vous ronchonnez, vous disqualifiez de la bénédiction. Alors nous allons imiter ceux qui réussissent et qui héritent des promesses. Amen. Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.